Jean, chapitre 16, verset 33, où Jésus dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le temps dure encore. Le temps dure encore. Vous savez, c'est une chose qui est sans cesse en train d'agiter mon esprit, que Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, continue de donner l'ordre aux quatre anges qui sont situés aux quatre vents de retenir les quatre vents pour qu'il ne souffle pas sur la terre et que la guerre ne rééclate pas sur la terre de nouveau pour amener la fin de toute chose définitivement en cette planète. Donc, les anges ont pour ordre de retenir les vents comme nous l'avions vu dans Apocalypse chapitre 7, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés en leur front. Il y a quelque chose qui doit se passer dans les fronts, dans le front de ceux qui croient en Dieu en ces derniers jours. Il y a une activité que Dieu souhaite voir se produire dans nos vies en tant que croyants en Jésus-Christ. Cette activité, ce n'est autre que le nom de Dieu, du Père, soit inscrit en notre front. Comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 14. Parce que là, l'apôtre Jean a vu les 144 000 se tenant avec l'agneau sur la montagne de Sion et il y avait écrit sur leur front le nom de son Père. Et donc que le nom de Dieu soit inscrit en nos fronts, c'est beaucoup plus, frères et sœurs, qu'une simple inscription extérieure. Il s'agit d'une œuvre qui est amenée dans nos cœurs par l'activité du Saint-Esprit et notre coopération avec Dieu, comme nous l'avions vu dans nos études précédentes. Donc nous sommes appelés à la gloire de Dieu, à avoir en nos fronts cette gloire. Et dans nos fronts, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans ce front? Parce que Dieu ne donne pas simplement un symbole, il donne un symbole qui est significatif, car le lobe frontal, cette partie du cerveau, c'est celle où notre conscience, nos cogitations personnelles et notre faculté de faire des choix intelligent se trouve. Dans le lobe frontal, c'est là que Dieu veut placer sa gloire. Jusqu'à ce que nous soyons intellectuellement et spirituellement établis dans la vérité. Et dans la vérité telle qu'elle est en Jésus. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, ce que l'on veut faire, c'est, comme cela nous a été suggéré dans cette lecture biblique que nous venons de lire, c'est trouver en nous la paix de Jésus. Non pas la trouver en nous sans Jésus, mais obtenir en nous-mêmes, recevoir en nous-mêmes la paix que Jésus nous a annoncée là. Il a dit « Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et il parlait à ses disciples et leur ayant parlé, il leur a dit « Je vous ai dit ces choses, toutes ces calamités qui vont arriver, que vous allez me renier, que je vais être crucifié, je vous ai déclaré ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Donc c'est quelque chose de très très important, d'intéressant, de fascinant, sur laquelle nous voulons nous attarder, nous concentrer et considérer attentivement. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous vivons au seuil de la fin de toutes choses. Et l'appel de Dieu à son peuple prend pour nous toute son ampleur possible alors que nous nous retrouvons face à face avec la responsabilité solennelle que Dieu a donnée à l'homme de choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Nous avons cette responsabilité, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous défaire de cette responsabilité. Dieu nous a donné un libre arbitre et dans ce front qui est le nôtre, il y aura une activité. Qu'elle soit pour le bien ou pour le mal, vous ferez un choix. Comme il est écrit dans l'Ancien Testament, « Je place aujourd'hui devant toi la vie et la mort. C'est à toi maintenant de choisir. » Et donc, dans cette méditation aujourd'hui, je voudrais qu'on se dirige tout premièrement vers le passage de Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21, verset 25 à 28. Et là, dans cette annonce que Jésus faisait, où il prédisait toutes les choses qui allaient survenir sur cette terre et qui annonceraient son retour, il disait « Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre les peuples seront dans la consternation et ne sachant que devenir, la mer et les flots faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde. Car les puissances des cieux seront ébranlées et alors ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Donc voilà, c'était les signes, ce sont les signes annonciateurs du retour visible et littéral de Jésus-Christ à cette planète. Des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et si vous connaissez votre histoire, vous savez tel que cela nous est récité et décrit dans la tragédie des siècles que ces signes ont paru véritablement. À la fin du 18e siècle, ces signes, et au début du 19e, ces signes ont paru. Des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Mais je voudrais qu'on se concentre tout particulièrement maintenant sur les signes qui nous concernent maintenant, nous, en cette dernière génération. Et il disait, les peuples seront dans la consternation et ne sachant que devenir, les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde. Et si vous connaissez véritablement l'histoire avec un certain discernement, la réalité c'est que depuis que la première guerre mondiale a éclaté et que après elle la seconde guerre mondiale soit venue créer la confusion, la peur, la crainte dans le monde, les hommes rendent l'âme de frayeur à la pensée de ce qui est sur le point de survenir sur la terre. Et c'est exactement la réalité qui s'est ancrée dans les mentalités des habitants de cette terre tout au long des années de la guerre froide. Les gens s'attendaient à ce que un nouveau conflit éclate. Seulement, ce conflit n'a pas éclaté. Ce conflit n'est pas survenu. Les gens ne comprennent pas. Et la raison pour laquelle ce conflit n'est pas survenu, ça ne sert à rien d'essayer de la trouver dans le déroulement des activités politiques. La raison, c'est la même raison pour laquelle un grand conflit en Europe avait été arrêté en 1848, c'est que les anges retiennent les quatre vents. Et pourquoi les retiennent-ils? Parce que Dieu souhaite que ses serviteurs soient scellés en leur front et donc il leur donne du temps. Les vents sont relâchés pour faire comprendre aux hommes sur la terre que les choses ne sont pas aussi paisibles qu'ils le croient. Et ensuite, les vents sont retenus. Ils sont relâchés et puis ils sont retenus. Ils sont relâchés et encore une fois retenus. Et les gens se réjouissent et ils se remettent à considérer toutes les possibilités et les développements politiques qui pourraient nous octroyer la paix sur cette terre à chaque fois que les vents sont retenus, au lieu de réfléchir et considérer que Dieu permet à ses jugements de survenir sur la terre pour que les hommes se tournent vers lui. Et nous, en ces temps, nous souhaitons, nous désirons nous tourner vers le Seigneur Dieu. Mais plus encore que ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette méditation. Nous voulons que la motivation qui nous amène au Seigneur, ce ne soit pas simplement les signes des temps, mais autre chose. Et d'ailleurs, pour développer ce passage que nous venons de lire dans Luc 21, j'aimerais lire dans le livre « Événements des derniers jours » à la page 22, paragraphes 2 et 3. Et ici, l'esprit de prophétie explore cette réalité et développe cette réalité pour notre esprit. Je lis. Jésus déclare « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, les peuples seront dans la consternation. Ceux qui contemplent ces signes précurseurs de son retour, ce sont eux qui savent que le Fils de l'homme est proche, même à la porte. Les nations sont dans le trouble. Des temps de perplexité sont sur nous. Le cœur des hommes défaille de frayeur devant les événements qui surviennent en ce monde. Mais ceux qui croient en Dieu entendront sa voix dans la tempête. C'est moi. N'ayez pas peur. Donc j'aimerais qu'on s'attarde sur cette réalité que les nations sont véritablement dans le trouble. Et des temps de perplexité sont sur nous aujourd'hui. Mais vous savez, depuis que ces temps, cette période creuse, si je peux me permettre, qui a survenu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que les hommes sont comme rendant l'âme de frayeur. La réalité, c'est que les hommes rendent tellement l'âme de frayeur qu'ils ne se soucient même plus de leur vie. L'indifférence, l'insouciance, la nonchalance face à la fin de toute chose a rendu les hommes fous. Et frères et sœurs, contemplez, considérez, si ces choses n'animent pas également nos esprits à nous qui sommes nés en cette dernière génération. Si vous avez 60 ans, 70 ans, Vous faites partie de cette dernière génération qui ne discerne pas et qui a été conditionnée à considérer que ces choses sont normales. Ces choses ne sont pas normales, frères et sœurs. La Bible nous dit que quand ces signes dans le soleil et dans la lune qui sont parus en 1780 et dans les étoiles qui est paru en 1833, quand ces signes auraient apparu sur la terre, ça serait annonciateur, précurseur du retour de Jésus-Christ. Donc il n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas aujourd'hui le moment pour s'endormir et se laisser aller par le courant du monde. Mais il a dit au verset 28, « Quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez la tête parce que votre rédemption approche. » Et regardez en haut, frères et sœurs, ce n'est pas une activité passive et oisive et nonchalante. Ce n'est pas du tout ça. Regarder en haut, c'est une activité fervente et consacrée de préparation. Et donc, comme nous l'avons lu dans cette citation, ceux qui croient vraiment, qui croient vraiment, pas juste qui croient intellectuellement, qui croient vraiment de tout leur être en Dieu, ils entendront dans toute cette tempête du monde la voix de Jésus qui leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur. » Et cette déclaration, elle est à prendre au sérieux. Elle n'est pas à prendre d'une manière passive et nonchalante comme pour affermir notre impiété. Elle est là pour consoler les cœurs qui sont affligés. Elle n'est pas là dans une autre raison. Et pour continuer, nous voulons lire dans Conseil à l'Église, à la page 272, au paragraphe 5. Et ici, elle développe davantage. Nous nous approchons de la fin des temps. Ça a été écrit vers les années 1870. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il m'a été montré que les jugements de Dieu sont déjà sur la terre. Et qu'en est-il de nous aujourd'hui? Le Seigneur nous a parlé d'événements qui vont arriver bientôt. Encore une fois, je répète, où en sommes-nous aujourd'hui? La lumière jaillit de sa parole et néanmoins, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Ensuite, elle cite 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont point. Et ensuite, elle dit quelque chose qui nous ramène à ce que je disais au sujet des anges. Je lis, « Le Seigneur est en train de relâcher son contrôle sur la terre. » Considérez, frères et sœurs, considérez. Qu'est-ce que cela veut dire? De manière concrète, cela veut dire que Dieu est en train, à plus forte raison aujourd'hui que c'était vrai en son époque, il est en train de relâcher son contrôle sur la terre. Il est en train de retirer son esprit. Donc, combien devrions-nous être éveillés et à l'écoute de peur que Dieu retire son esprit à nos âmes suffisantes, orgueilleuses et endormies, laodicéennes. Considérez, frères et sœurs, considérez, de peur que nous nous trouvions de l'autre côté, à l'extérieur des portes de Jérusalem, à la fin des 1000 ans. Où serons-nous, frères et sœurs? Où serez-vous? Donc Dieu est en train de relâcher son contrôle sur la terre. Mais s'il relâche son contrôle sur la terre, qui a le contrôle après? Vous voyez, c'est pour cela qu'il nous faut attentivement examiner nos cœurs. Elle continue, bientôt la terre sera la proie de la mort, la destruction, l'augmentation de la criminalité. Les riches qui ont méprisé les pauvres seront livrés à de féroces cruautés diaboliques. Et vous savez, moi, ça me fait me poser la question. Ceux qui ont méprisé les pauvres seront livrés à de féroces cruautés diaboliques. Est-ce que cela veut dire que les cruautés diaboliques les détruiront? Ou est-ce que cela veut dire que les cruautés diaboliques les animeront? Parce qu'il est écrit que Dieu est en train de relâcher son contrôle sur la terre et de permettre à Satan d'opérer davantage et davantage dans les événements qui peuvent être vus dans les tempêtes, dans les cataclysmes, les tremblements de terre, les incendies et toutes les sortes de destructions, les actes de criminalité. Voyez, frères et sœurs, il n'est pas bon que nous laissions ces choses nous passer devant. Quand nous voyons ces choses, nous sommes amenés à briser nos cœurs devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu permet que les vents soient relâchés pour nous faire réaliser que lorsque la paix et la sûreté sera déclarée comme établie sur la terre, c'est alors qu'une ruine soudaine surprendra les habitants de cette terre. Donc il convient pour nous de laisser ces choses bouillir en nos cœurs. Ce n'est pas déplacé. Elle continue. Ceux qui n'ont pas la protection de Dieu ne seront en sécurité nulle part. Des agents humains sont formés et s'ingénient à mettre sur pied une artillerie très puissante pour blesser et tuer. Qu'est-ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale? Quel genre d'artillerie puissante a été révélée à Nagasaki et Hiroshima? Les anges ont lâché les vents. Et quel genre d'autres artilleries très puissantes ont été inventées depuis? Je ne dirais pas dans les détails, mais frères et sœurs, considérez que cette terre est délivrée aux puissances du diable. Elle continue, les jugements de Dieu s'abattent sur la terre. Les guerres et les bruits de guerre, la destruction par le feu et par les inondations indiquent clairement que le temps de détresse qui doit aller en s'intensifiant jusqu'à la fin, est très proche. C'est très intéressant parce que elle dit à la fois que le temps de détresse est proche, mais elle a dit que ce temps doit s'intensifier jusqu'à la fin. Et dans les premiers écrits, je crois, il est écrit, elle parle d'un commencement du temps de détresse. C'est-à-dire que ce commencement du temps de détresse, c'est un moment avant la fin du temps de grâce. C'est-à-dire que le temps de détresse, il ne vient pas s'éclater sur cette terre soudainement, tout d'un coup, sans au préalable avoir été introduit par des secousses qui sont venues prévenir les habitants de la terre. Elle continue. Bientôt des troubles graves surviendront au sein des nations, des troubles qui continueront jusqu'au retour de Jésus. Voilà, ça confirme ce que je viens de dire. C'est ce commencement du temps de détresse vient préparer le début du temps complet de détresse, ce temps de Jacob. Et elle disait à son époque, bientôt des troubles graves surviendront au sein des nations. Et elle est morte en 1915, juste après que la Première Guerre mondiale ait éclaté sur la terre. Et quels étaient alors ces troubles dont elle parlait? Ils sont derrière nous maintenant. Et nous sommes également en plein dedans. Donc ces choses-là, ce sont les raisons pour lesquelles on nous dit, à la page 271, au paragraphe 5, Dieu nous a révélé ce qui va arriver dans les derniers jours pour que son peuple ait la possibilité de se préparer à faire face à l'opposition et à la colère. Ceux qui ont été avertis des événements qui les attendent ne doivent pas rester impassibles quand ils savent que la tempête approche, avec l'idée que le Seigneur les protégera à ce moment critique. Nous devons être comme des hommes qui attendent leur maître, non dans l'oisiveté, mais en travaillant avec une foi et un zèle infatigables. Et puis ensuite, elle continue sur toutes les choses que le peuple de Dieu, à son époque, était appelé à faire. Et maintenant, les adventistes du septième jour, ils lisent ça et ils disent « Maintenant, il faut que nous allions répandre les tragédies des siècles comme des feuilles d'automne. Maintenant, il faut que nous allions faire du porte-à-porte. » Mes frères et sœurs, c'est passé ça. Maintenant, le travail qui nous incombe, c'est de travailler avec crainte et tremblement pour notre salut. Les gens ont déjà reçu les livres, ils ont déjà reçu les livrets, les pamphlets, ils ont déjà reçu les feuillets. Mais aujourd'hui, nous voulons faire ça sans avoir ce travail intérieur brûlant de l'activité de Jésus en nos cœurs. Et quel genre de fruit pensez-vous que nous aurons? Les gens ne veulent plus entendre la théorie. Ils sont lassés d'entendre des hommes et des femmes leur annoncer que Jésus vient bientôt, tout en voyant que ces mêmes hommes-là et ces mêmes femmes-là ne représentent pas du tout le caractère de Jésus-Christ dans leur vie. Ce dont les hommes ont besoin aujourd'hui, c'est de personnes qui leur représentent de manière vivante la nature du cœur de Jésus-Christ et l'amour de Dieu en pratique. Et donc, comme nous l'avons lu, tous ces événements, ils nous sont révélés pour que nous ayons la possibilité de nous préparer. pour faire face à l'opposition et à la colère. Parce que le genre d'opposition et de colère auquel Dieu nous appelle à faire face en ces derniers temps, c'est le genre de choses que vous ne pouvez pas affronter de vos propres forces. Et cet appel à la préparation, il est davantage exprimé dans le livre d'Amos, au chapitre 4, verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai ainsi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. C'est l'appel solennel du Seigneur pour nous en ce temps-ci. Et nous voulons laisser les paroles se fondre un chemin à travers nos cœurs. Prépare-toi à la rencontre de Jésus. À ses flammes, ses yeux de flamme qui sondent son peuple de part en part. Et quel genre de préparation est requise? À quel genre de préparation Dieu nous appelle-t-il? Est-ce une préparation simplement d'évangélisation publique? Est-ce une préparation de transformation de qui nous sommes sur le plan extérieur, de nos pratiques extérieures, du fait d'aller à l'église le samedi? Est-ce simplement ce genre de choses, ce genre de changements qui sont demandés ici. Dans Hébreux chapitre 12, l'apôtre nous parle de la préparation requise. Il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et dans la Bible Darby, qui est pareil sur ce verset que la Bible King James, on lit « et chercher la sainteté ». Donc cette sanctification, ce n'est nul autre que la sainteté de Dieu. Et nous devons rechercher cette sanctification sans laquelle nous ne verrons pas Dieu. Et pourtant, Dieu nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc cela veut dire, parce que dans Apocalypse chapitre 1, il est dit que lorsque Jésus-Christ vient sur les nuées de manière physique et visible et réelle, tout œil le verra, et ceux-là aussi qui l'ont percé. Donc cela veut dire que eux ils le verront aussi, même s'ils n'ont pas eu de sanctification. Mais qu'est-ce qui leur arrivera? C'est la différence. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Nous lisons cette prédiction de l'apôtre où il nous dit: car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. Et nous connaissons ici par notre compréhension que cet homme impie, ce n'est autre que l'entité de l'Église papale qui nous est déclaré qu'elle sera détruite, anéantie par l'éclat de son avènement. Donc il y a deux sortes de personnes qui voient Jésus. Il y a celles qui le voient et qui sont emportées par lui au ciel. Il y a ceux qui le voient et qui sont anéantis par l'éclat de son avènement. Et donc, comme nous l'avons vu, sans la sanctification, sans cette sainteté, nul ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que si nous sommes croyants et que nous voulons voir Jésus, mais que nous n'avons pas été sanctifiés, la vision de Jésus nous anéantira. Parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Nous verrons Dieu, mais nous mourrons. De la même manière que cet impie, cette organisation qui a tué les saints pendant des centaines d'années, elle vivra. Ces croyants vivront. Cette entité vivra. Mais elle sera anéantie par l'éclat de l'avènement de Jésus-Christ. Et donc, comme nous l'avons vu, il s'agit, cette préparation, il s'agit d'une préparation intérieure. Et maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde sur une citation de l'esprit de prophétie qui nous aide à élargir ces choses-là. Parce que on nous dit aussi, je n'ai pas ici la citation, mais que il ne s'agit pas simplement de susciter la crainte dans les cœurs pour qu'ils viennent à Dieu. Ce n'est pas vraiment ça l'activité des sentinelles dans Sion. L'esprit de prophétie dit que on ne devrait pas avoir besoin d'avoir recours à ces avertissements pour que les cœurs soient échauffés et réchauffés par l'amour de Dieu. Et ce que je viens de dire, cela suggère dès maintenant l'élément qui va réellement nous motiver. Là, aujourd'hui, en commençant, j'ai attiré notre attention sur quelque chose qui est impératif pour nous de comprendre que nous ne devons pas être impassibles et vivre dans l'oisiveté comme si le Seigneur allait nous sauver à la fin, quoi que nous ayons fait, quelles qu'aient été nos croyances et quelles qu'aient été nos pratiques. Non, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir ce genre de mentalité. Le Seigneur ne sauvera pas ceux qui n'auront pas fait l'effort pour être sauvés en Jésus-Christ. Maintenant que j'ai abordé ce sujet, qui est absolument impératif, pour que nous le prenions à cœur et que nous soyons ébranlés dans notre état laodicéen, il y a quelque chose d'autre qu'il nous faut aborder. Et c'est d'ailleurs la chose qui est la principale, mais souvent la chose qui est la principale, nous avons tendance à la mettre à la 10e place. C'est pour ça que j'ai choisi cet ordre-là. Et maintenant je lis dans le livre « Puissance de la grâce » Et c'est intéressant parce que le titre de ce livre en anglais est différent. C'est « La grâce merveilleuse de Dieu ». Donc, je ne ferai pas de commentaire. Mais ici, dans « Puissance de la grâce », à la page 265, du paragraphe 2, pour commencer jusqu'à 4, je lis le suivant. « Lorsque nous considérons la beauté, la bonté, la miséricorde et l'amour de Jésus, nos facultés mentales et morales sont fortifiées. » Et donc vous savez, en vision, l'apôtre Jean a vu les 144 000 qui avaient en leur front, le nom du Père. Et ici on nous dit qu'en considérant la beauté, la bonté, l'amour de Jésus, nos facultés mentales et morales sont fortifiées. C'est l'activité dans le front. Qu'est-ce que c'est? En considérant, en contemplant, en regardant l'amour de Jésus. Et tant que l'esprit est entraîné à faire, à accomplir les œuvres de Christ, à vivre comme des enfants obéissants, vous poserez
toujours la question. Et l'anglais ici, c'est votre habitude sera de poser la question. Vous voyez, c'est une habitude qui doit se former. Dans le front, il doit y avoir quelque chose qui fait que c'est une transformation, une sanctification, une sainteté qui ne reviendra plus en arrière. Où nos facultés mentales et morales auront été fortifiées par la contemplation de l'amour de Jésus. Et donc, tant que l'esprit est ainsi entraîné à faire les œuvres de Christ et à être obéissant, vous poserez toujours la question, est-ce la voix du Seigneur? Et l'anglais, c'est, est-ce ici la voix du Seigneur? Ce que je fais là, ce que je m'apprête à faire, est-ce que c'est la voix du Seigneur? Puis elle continue, « Jésus sera-t-il content de me voir faire cela ?» Donc vous vivez véritablement à la lumière, en la présence de Dieu. De manière concrète, vous demandez, « Seigneur, est-ce que c'est ta voix là ? Est-ce que Jésus sera content ?» Si je fais ça, Jésus sera-t-il content de me voir faire cela? Beaucoup doivent changer radicalement le cours de leurs pensées et de leurs actions s'ils veulent plaire à Jésus. Ou changer radicalement le cours de nos pensées. Et de nos actions, les pensées et puis les actions et les pensées. Il y a un cours de nos pensées que Dieu nous demande de changer radicalement. C'est facile de s'empêtrer, de s'habituer à nos propres pratiques. Et après, nous arrivons à un endroit où Dieu nous dit, il faut que tu changes radicalement ces choses. Et comment allons-nous pouvoir changer radicalement ces cours qui sont le produit, le résultat d'années de pratiques et de répétitions? Elle continue, nous voyons rarement nos péchés dans toute leur gravité comme Dieu peut les voir. Donc on ne voit pas vraiment le péché tel qu'il est vraiment. On s'imagine que le péché n'est pas trop grave et c'est cela qui nous permet de commettre le péché. Et elle dit, nous voyons rarement nos péchés dans toute leur gravité comme Dieu peut les voir. Beaucoup se sont accoutumés à suivre une voie de péché et leur cœur s'endurcisse sous l'influence de la puissance de Satan. L'esprit de prophétie ne laisse rien couvert et caché. Donc il y a cette accoutumance à suivre une voie, un chemin, une pratique de péché, et le cœur s'endurcit sous l'influence de la puissance de Satan. Et quelle est la puissance de Satan? Quelle était sa puissance dans le désert lorsqu'il a tenté Jésus-Christ? Ah, mais rappelez-vous des trois tentations, de l'essence de ces tentations qui nous reviennent à nous. C'est ça, la puissance de Satan. Son influence, sa puissance fait que si nous ne prêtons pas sérieusement attention au cours de nos pensées et de nos actions, notre cœur va s'endurcir là où nous suivons cette voie de péché. Mais frères et sœurs, c'est sérieux ces choses. Ça nous appelle à considérer, à nous poser la question, où est-ce que je fais ça, Seigneur? Où est-ce que je fais ça? Est-ce que mon cœur s'endurcit sous l'influence de la puissance de Satan? Parce que vous savez, si par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose, et vous avez tellement l'habitude de le faire que vous n'y réfléchissez même plus, mais là, Dieu est en train de susciter votre esprit, de l'animer, et il vous fait réfléchir, et il vous dit, le cours de ta pensée est en train de t'endurcir ton cœur, et tu ne réfléchis même plus si ce que tu fais est bien ou mal, sous l'influence de la puissance de Satan. Et vous voyez, frères et sœurs, ça vaut le coup, non? Il faut réfléchir, il faut examiner. Il faut permettre à Dieu de se fondre un chemin dans ce cœur suffisant. Et ça fait mal, ça fait mal. Mais Jésus n'a-t-il pas eu mal? Le chemin de Jésus était-il facile? Je vous laisse examiner la réponse à ce genre de questions. Donc voilà, on a devant nous une œuvre à accomplir, à travailler avec crainte et tremblement, en craignant, en tremblant de peur que nous fassions quelque chose que nous avons tellement l'habitude de faire que nous ne réalisons même pas que c'est un péché. Et Dieu vient et dit, il nous secoue, il nous dit, vous vous êtes accoutumés à suivre une voie de péché et votre cœur s'endurcit dans cette voie-là. Parce que vous ne considérez pas, vous n'observez pas que il faut que le cours de vos pensées et de vos actions soit changé radicalement si vous voulez me plaire. Et donc nous nous trouvons là et nous disons, oh mais Seigneur, ça fait tellement d'années. Mais Jésus ne nous laisse pas là. Il ne nous demande pas de faire quelque chose pour laquelle il ne pourvoira pas une puissance, une capacité, une force. Et c'est ce qu'on lit juste après. Mais lorsque, par la force et la grâce de Dieu, ils opposent leur esprit aux tentations de Satan, leur intelligence est éclairée, leur cœur et leur conscience, influencés par l'Esprit de Dieu, sont rendus sensibles. Et le péché apparaît alors tel qu'il est, excessivement pécheur. Et ce mot « excessivement pécheur », nous le retrouvons dans Romains chapitre 7, verset 13. C'était ce que l'apôtre Paul disait au sujet de ce qu'il avait maintenant réalisé à la lumière de la loi de Dieu, que ses pratiques, qu'il était, c'était vraiment une abomination. Et donc, lorsque, par la grâce et la force de Dieu, nous opposons nos esprits, notre esprit aux tentations de Satan, c'est-à-dire que nous exerçons notre volonté en opposition à ces tentations, que nous mettons notre volonté du côté de la volonté du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Notre intelligence est éclairée. Dieu éclaire notre intelligence. Et notre cœur, notre conscience, étant influencée par l'Esprit de Dieu, est rendue sensible. Donc on ne s'endurcit plus, on est rendu sensible. Parce que nous cherchons la force, nous souhaitons, nous désirons, nous appelons la grâce de Dieu. Et pas seulement cela, mais nous opposons notre esprit aux tentations de Satan. De la même manière que Jésus l'a fait, il a dit, quand Satan il le tentait, il est écrit. Et ensuite il a dit, il est écrit. Et après, Satan il a dit, ah mais il est écrit ça. Et Jésus il a dit, oui. Mais il est aussi écrit ça. Voyez, frères et sœurs, c'est lorsque la tentation vient et nous tente de faire des choses auxquelles nous nous sommes tellement accoutumés que nous ne réalisons pas que c'est mauvais, Maintenant, Dieu nous appelle à opposer nos esprits aux tentations de Satan. Pas à nager dans le même sens, mais à nous opposer. Et cela demande une énergie, un esprit de réveil et où nous nous secouons de notre léthargie et nous opposons notre esprit aux tentations dans notre esprit, dans notre pensée, et nous brandissons la parole de Dieu. Brandir la parole de Dieu, pas dire « Ah oui, d'accord ». Non, je brandis la parole de Dieu et je m'oppose, j'oppose mon esprit aux tentations par une parole de Dieu. Donc la tentation me dit « Ah, vas-y, tu peux y aller, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux penser comme ça, tu peux penser comme ci ». Mais non, avec la parole de Dieu, nous disons « Non ». Et quoi ? Est-ce que nous disons juste « Non » ? Non, parce que « Non », ce n'est pas suffisant. Il faut que j'ai la parole de Dieu pour me soutenir. Pour que l'Éternel lui-même, il dise à Satan « L'Éternel te réprime ». Est-ce que vous pouvez dire « L'Éternel te réprime de votre propre force » ? Il ne va pas être réprimé comme ça. Il ne va pas être réprimé par ma propre récitation sans une réelle application de la parole de Dieu. Il faut que j'oppose mon esprit avec toute la vigueur qui est en moi à la tentation et que j'entende et que je déclare dans mon cœur que la parole de Dieu est le rocher sur lequel je place mes pieds. Et alors, nous ne serons pas ébranlés. C'est fascinant, la parole de Dieu, quand nous la laissons avoir une influence transformatrice sur nos cœurs. Ne pouvez-vous pas témoigner de la même chose, frères et sœurs ? Il nous faut pouvoir témoigner. Parce que si nous n'avons pas de témoignage à rendre, eh bien, cela veut dire que nous n'avons pas permis à Jésus de se faire une place dans notre cœur. Et d'ailleurs, il est écrit dans l'esprit de prophétie que Dieu n'acceptera pas la seconde place et il ne partagera pas le trône de notre conscience avec un autre. Donc ça doit être Jésus ou rien du tout. Et si ce n'est pas Jésus, alors je pose la question, qui est-ce qui contrôle nos affections ? Notre cœur, notre intelligence et notre conscience. Moi, je loue le Seigneur, frères et sœurs, que lorsque nous mettons ces choses en pratique, il se passe un miracle dans la vie du croyant. Et ce miracle, ce n'est autre que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mon espérance, elle devient autre chose que les ambitions mondaines de la chair. Mon espérance, mes regards, ils sont fixés en haut. Et c'est ce que nous avions lu dans Luc chapitre 21. Lorsque vous voyez toutes ces choses approcher, ne dormez pas. Levez vos yeux car votre rédemption, votre délivrance approche. Et donc lorsque notre délivrance approche, est-ce que nous allons maintenant tout d'un coup commencer à placer notre trésor sur la terre ? Quel paradoxe ! Quel blasphème ! Combien Dieu doit être-t-il attristé à voir ses enfants mettre leurs affections et leurs espérances sur la terre alors même qu'il est en train de délivrer la terre aux puissances du mal ? N'est-ce pas un non-sens ? N'est-ce pas un non-sens ? Mais c'est la chair, frères et sœurs. La chair ne fait que des non-sens. Et donc, cela rejoint maintenant ce que nous avons lu. Brièvement, je voudrais attirer votre attention sur ce que nous avions lu dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Comment est-ce que, par quel moyen pourrons-nous remédier à des maux si enracinés en nous ? Ces maux que nous avons vus, cette accoutumance, ces péchés que nous ne discernons pas tels qu'ils sont vraiment, comment allons-nous les vaincre ? Comment allons-nous nous en dépouiller ? Il est écrit ici, « Ainsi, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Vous voyez comme cela rejoint ce qu'on vient de lire dans la déclaration de l'Esprit de prophétie de puissance de la grâce. Impressionnant. En contemplant la gloire, comme dans un miroir, dans la parole de Dieu, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image. Nous avons contemplé l'Esprit de prophétie. Qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas le témoignage de Jésus? Donc lorsque nous lisons l'Esprit de prophétie, cette profondeur, ne sommes-nous pas en train de contempler la gloire du Seigneur? Et lorsque nous contemplons, que nous buvons, que nous brisons à l'écoute de ces paroles, nous sommes transformés à son image. Si nous permettons à ces choses de nous percuter, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit l'agit en nous. Lorsque nous nous soumettons à son influence et que nous nous saisissons de la force et de la grâce de Dieu. Et la grâce, nous avions vu, elle fait quoi? Elle nous enseigne à ne pas vivre dans l'impiété, dans les convoitises et dans l'intempérance. Vous voyez comme toutes ces choses se rejoignent et forment un tout inséparable de la pure parole de Dieu. Et Jésus est la parole. Nous sommes en train de pénétrer dans la vie de Jésus-Christ. Et j'aurais voulu lire une citation, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir y aller. Mais on va quand même lire le passage de Marc, chapitre 4, verset 36 à 41. Parce que si vous vous souvenez, nous avons lu que en ces temps de troubles, lorsque les nations sont irritées et qu'il y a des bruits de guerre, nous lisions, mais ceux qui croient en Dieu, avec tout ce que ça veut vraiment dire, comme nous l'avons vu, entendront la voix qui leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc lorsque nous commençons à trembler à l'intérieur de nous et notre cœur est en train de défaillir, de frayeur à la pensée des choses qui vont survenir sur cette terre, les cataclysmes, les incendies, les ouragans, les tremblements de terre, les complots, les destructions par le feu et l'eau. Lorsque toutes ces choses nous accablent et nous, comme, tirent le voile entre nous et notre Dieu, si nous continuons de croire en Dieu, de placer notre affection en lui et de le chercher à tâtons dans l'obscurité de notre incertitude et de notre crainte, nous entendons cette voix. Et nous avons un parallèle de ce qui a été déclaré ici dans Conseil à l'Église, dans Marc chapitre 4, versets 36 à 41. Et après avoir renvoyé le peuple, ils emmenèrent Jésus dans la barque comme il y était, et il y avait aussi d'autres petites barques qui l'accompagnaient. Alors s'éleva un grand coup de vent, et les vagues entraient dans la barque en sorte qu'elle commençait à s'emplir. Imaginez un peu. Lorsque votre barque s'emplit, il y a un réel problème. Et d'ailleurs, les réfugiés qui traversent entre l'Afrique du Nord et l'Europe, par exemple l'Italie, eux-mêmes, ils témoignent qu'ils ont fait face à la mort. Et je parlais avec un jeune homme, il me disait, notre bateau gonflable, il était en train de se remplir d'eau. Et ils étaient en train de prier Dieu les musulmans et les chrétiens, ils priaient Dieu et ils demandaient la délivrance. Parce que quand vous êtes dans la mer, il n'y a plus rien. À gauche, à droite, derrière, devant, c'est vide. Et votre seul espoir est en Dieu. Et ils ressentaient ça. Les disciples étaient dans ce genre d'expérience-là. La barque commençait à se remplir. Mais Jésus était à la poupe, dormant sur un oreiller. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne te soucies-tu point de ce que nous périssons ?» Mais lui, étant réveillé, parla avec autorité au vent et il dit à la mer, « Tais-toi, sois tranquille. » Et le vent cessa et il se fit un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi ?» Il y a de quoi méditer ici. C'est vraiment rempli de leçons, de choses. Alors qu'ils étaient dans ce tumulte, cette crainte indescriptible, cette anticipation du pire, il était à la poupe et il dormait sur un oreiller. Nous voyons Jésus, frères et sœurs. Ici, nous voyons Jésus. Ce n'est pas un accident qu'il dormait. Il dormait parce qu'il avait la paix. Il dormait parce qu'il avait une paix qui n'est pas de ce monde. Et j'aimerais lire quand même dans la vie de Jésus-Christ, à la page 251, au paragraphe 2. Et pour votre propre méditation, à partir de la page 249, vous avez ici le développement de l'esprit de prophétie sur ces scènes-là. Et je vous y réfère, mais je ne lirai que ici maintenant. Où l'esprit de prophétie fait maintenant l'application de cette scène troublante et effrayante. Agité sur les vagues écumantes de la mer, le voyageur fatigué devrait se souvenir que Jésus était sur la mer dans un moment de semblable péril, que sa voix commanda à la terrible tempête de cesser, que les éléments déchaînés obéirent à son ordre et que ses disciples fidèles furent sauvés. Lorsque les vagues se brisent contre notre barque chancelante et que les éclairs nous révèlent les récifs qui menacent de nous détruire, nous pouvons nous souvenir que Jésus est dans la barque. Il entend notre cri d'angoisse et il n'abandonnera jamais ceux qui mettent en lui leur confiance. Et donc Jésus est dans la barque et pour élargir cette réalité que notre Seigneur Jésus et dans notre barque, et fait notre expérience, et est soumis au même danger, au même péril. Nous voulons lire les paroles d'Ésaïe 53, les versets 4 et 5. À quel point est-il dans notre barque, et combien peut-il compatir à nos souffrances et à nos peurs? Et à nos angoisses, à notre perplexité. Il est écrit, « Cependant, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous, Nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Il était là dans la barque avec nous. Il est descendu dans le sanctuaire du corps humain. Comme il était venu habiter au milieu des Hébreux. Il est venu dans cette chair et il a été meurtri pour nos péchés. Il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos sérieuses douleurs. Et le châtiment qui nous apporte la paix, il est tombé sur lui. Parce que il est marqué que l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà Jésus dans la barque. Voilà Jésus dans notre barque. C'est à ça que nous sommes appelés à sa gloire. Et sa gloire, la gloire qu'il nous a payée, il l'a payée à ce grand prix-là. Pas seulement pour que nous ayons sa gloire, mais pour qu'il nous délivre des peines de nos propres fautes. Et dans Jean chapitre 14, verset 27, nous concluons sur cette paix. Cette paix. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne point comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. Donc Jésus a pris sur lui notre châtiment pour pouvoir nous donner la paix et il nous dit « Je vous donne ma paix ». Et sa paix, c'était celle qui lui permettait de dormir dans la tempête. Et nous apprenons que Jésus a payé au prix de sa vie la paix qu'il nous offre. Et en réalisant qu'il a porté nos langueurs et qu'il a pris nos souffrances pour nous montrer et nous communiquer l'amour de Dieu, nous recevons à l'intérieur de nous-mêmes la paix par laquelle nous pouvons dire aux vagues de la colère satanique, tais-toi, sois tranquille. Et ce sera Jésus qui calmera nos angoisses et qui nous donnera cette paix qui n'est pas comme la paix du monde. Car comme nous avions lu, dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde et je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Puissent ces méditations nous accompagner et puissent-elles s'enrichir dans nos cœurs et dans nos pensées et comme Jésus l'a dit, rejaillir de nous-mêmes comme une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. C'est ma prière, frères et sœurs. Au nom de Jésus, amen.